Bonsoir. Alors, le cours de ce soir est consacré à Versailles, et plus précisément à Versailles sous le règne du roi Louis XIV, qui est le véritable ordonnateur du lieu. Donc, art et politique se conjuguent étroitement ici, à tel point que Versailles est devenu l'emblème de la monarchie absolue en France. On va introduire ce cours par la déambulation à Versailles de quatre amis. C'est un extrait tiré des Amours de Psyché et de Cupidon de Jean de La Fontaine, et c'est l'occasion pour ces quatre amis de déambuler dans cette gigantesque entreprise qu'est Versailles. Tout leur dîner se passa à s'entretenir des choses qu'ils avaient vues et à parler du monarque pour qui on a assemblé tant de beaux objets. Notre monarque se divertit à faire bâtir des palais. Cela est digne d'un roi. Il y a même une utilité générale, car, par ce moyen, les sujets peuvent prendre part au plaisir du prince et voir avec admiration ce qui n'est pas fait pour eux. Tant de beaux jardins et de somptueux édifices sont la gloire de leur pays. Et que ne disent point les étrangers, que ne dira point la postérité quand elle verra ces chefs-d'œuvre de tous les arts. Donc le sujet est lancé, il y a une dimension scénique, véritablement, à Versailles. Versailles est la scène sur laquelle se déploie le pouvoir du roi. Je vais commencer ce cours en abordant un peu plus précisément le personnage de Louis XIV. Et je voulais ouvrir ce portrait par la description qu'en fait Saint-Simon. Saint-Simon, c'est un écrivain, un mémorialiste du XVIIe siècle. Il compile tous les faits et gestes de la cour, il s'intéresse aux moindres intrigues, et il va dresser un portrait de Louis XIV un peu acide, c'est-à-dire qu'il oscille tout le temps entre blâme et panégyrique. Et donc, il débute son portrait de Louis XIV par ces termes, je le cite, « Roi presque en naissant, étouffé par la politique d'une mère qui voulait gouverner, plus encore par le vif intérêt d'un pernicieux ministre qui hasarda mille fois l'État pour son unique grandeur et a servi sous ce joug tant que vécut ce premier ministre, c'est autant de retrancher sur le règne de ce monarque. Né avec un esprit au-dessous du médiocre, mais un esprit capable de se former, de se limer, de se raffiner, d'emprunter d'autrui sans imitation et sans gêne, il profita infiniment d'avoir toute sa vie vécu avec les personnes du monde qui tout en avaient le plus et des plus différentes sortes, en hommes et en femmes de tout âge, de tout genre et de tout personnage. S'il faut parler ainsi d'un roi de 23 ans, sa première entrée dans le monde fut heureuse en esprit distingué de toute espèce. Ses ministres au-dedans et au-dehors étaient alors les plus forts de l'Europe, ses généraux les plus grands, leurs seconds les meilleurs. Ce fut dans cet important et brillant tourbillon où le roi se jeta d'abord et où il prit cet air de politesse et de galanterie qu'il a toujours su conserver toute sa vie, qu'il a si bien su allier avec la décence et la majesté. On peut dire qu'il était fait pour elle, et qu'au milieu de tous les autres hommes, sa taille, son port, les grâces, la beauté et la grande mine qui succéda à la beauté, jusqu'au son de sa voix et à l'adresse et la grâce naturelle et majestueuse de toute sa personne, le faisait distinguer jusqu'à sa mort comme le roi des abeilles. Alors, Louis XIV, il naît en 1638, et quelques années après cette naissance, en 1643, meurt son père, le roi Louis XIII. Louis XIV est alors encore un enfant, donc il ne règne pas tout de suite, et c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui obtient du Parlement l'administration libre et entière des affaires du royaume. Et Anne d'Autriche, qu'on voit ici peinte par Rubens, elle va s'entourer d'un homme, le cardinal Mazarin, qu'elle nomme Premier ministre. Alors le voici justement, le cardinal Mazarin, peint par Philippe de Champaigne. Je voulais aborder un peu plus précisément cette période de la Régence par ce portrait, peint par Laurent de la Hire. Laurent de la Hire, c'est un peintre qui est l'un des grands représentants de ce qu'on appelle l'atticisme parisien. L'atticisme parisien, c'est un courant qui naît à Paris dans les années 1640-1650, et c'est un courant qui est basé sur une réinterprétation de l'Antiquité et qui est aisément reconnaissable à son style épuré, avec des tons clairs et des tons brillants. Donc Laurent de la Hire, c'est vraiment l'un des grands représentants de ce mouvement. Dans ce tableau, il peint une allégorie de la régence d'Anne d'Autriche, et qui dit allégorie, dit symbole. Et là, en l'occurrence, on a une multitude de symboles pour glorifier cette période bienheureuse qu'est la régence d'Anne d'Autriche. L'allégorie qu'on voit ici pose sa main sur un globe sur lequel sont représentées des fleurs de lys. Elle tient de l'autre main une palme, la palme de la victoire. Elle pose son pied sur une base cubique qui symbolise la fermeté de son règne et elle est couronnée de lauriers par une figure allégorique, la vertu. Donc tout n'est que paix, tout n'est que prospérité et on a des éléments qui rappellent justement ce contexte pacifique. On voit notamment cet amour dans la partie droite du tableau qui est en train de mettre le feu à un monceau d'armes, ce qui signifie que c'est la fin de la guerre. Et pour bien rappeler justement que cette guerre prend fin, eh bien on observe que cet amour tient un rameau d'olivier qui symbolise la paix. Et pour renforcer encore cette idée de règne de paix, de règne de prospérité, on voit à l'arrière-plan la figure de la renommée ailée qui annonce justement la paix. Pour autant, cette période de la Régence, elle est émaillée par un certain nombre d'événements, et notamment par la Fronde. La Fronde, c'est un mouvement de protestation contre la monarchie, une monarchie jugée de plus en plus autoritaire et donc contestable. Et il va y avoir un certain nombre d'affrontements militaires qui vont donner à la Fronde des allures de guerre civile. On n'est pas pour autant dans une révolution. Le pouvoir est contesté, ça c'est indéniable, mais il n'est pas remis en cause. Néanmoins, Louis XIV, qui assiste à ces événements, est profondément marqué par cette remise en question et dès le départ, il va élaborer dans son esprit une conception d'un État fort et puissant. Ces événements vont profondément le marquer et vont profondément l'inciter à faire de la monarchie une monarchie forte. Quelques mois après la fin de la Fronde, en 1654, Louis XIV est sacré roi. On le voit ici peint par Charles Poherson. Et Charles Poherson peint un tableau très emblématique des ambitions de Louis XIV. Louis XIV est ici portraituré sous les traits de Jupiter, donc on a là encore une œuvre qui regorge de symboles. Hein. Tout est fait pour assimiler le souverain au dieu romain. On voit la foudre, on voit l'aigle, on voit le bouclier avec la tête de la méduse sur lequel Louis XIV pose son pied. Et on a un décor antiquisant avec ce rideau rouge qui théâtralise, qui magnifie cette figure du souverain majestueux, victorieux. Donc Louis XIV commence à régner et quelques années après les débuts de ce règne, meurt Mazarin en 1661. Et Louis XIV va prendre une décision étonnante dont se fait écho Madame de Lafayette, grand écrivain français, auteur de La Princesse de Clèves. Et voici ce que dit Madame de Lafayette à propos de cette mort et à propos de la décision qui va suivre. Cette mort donnait de grandes espérances à ceux qui pouvaient prétendre au ministère. Ils croyaient en apparence qu'un roi qui venait de se laisser gouverner entièrement, tant pour les choses qui regardaient son état que pour celles qui regardaient sa personne, s'abandonnerait à la conduite d'un ministre qui ne voudrait se mêler que des affaires publiques. Il ne pouvait tomber dans leur imagination qu'un homme pût être si dissemblable de lui-même et qu'ayant toujours laissé l'autorité de roi entre les mains de son premier ministre, il voulut reprendre à la fois et l'autorité du roi et les fonctions de premier ministre. Et donc en fait, aucun premier ministre n'est nommé à la suite de Mazarin. Louis XIV règne, gouverne, tous les pouvoirs sont concentrés entre ses mains. Avec Louis XIV, la monarchie va jouer à nouveau un rôle déterminant dans les arts. C'est tout stratégique. Louis XIV, il a bien compris que l'art peut être un outil, qu'il a une dimension politique et donc qu'il peut servir magistralement le pouvoir. Et tout au long de son règne, il va mener une politique très dynamique pour favoriser justement les arts. Il va notamment créer en 1648 l'Académie de peinture et de sculpture, une fondation qui est très importante, à la fois d'un point de vue artistique et d'un point de vue théorique, puisque à ce moment-là, s'élabore véritablement une pensée esthétique, au sens philosophique du terme. On va réfléchir au sens de l'art, on va réfléchir à l'apport de tel ou tel artiste, à la célébrité de telle ou telle œuvre. Bref, on est dans un espace exemplaire de réflexion et de discussion. Louis XIV s'intéresse aux arts, mais il s'intéresse à tout un tas de domaines différents. Les sciences, par exemple. J'ai notamment trouver ce tableau d'Henri Testelin, la visite de Louis XIV à l'Académie des sciences. On voit justement le souverain assis et auprès de lui, on a son ministre, Jean-Baptiste Colbert, qui l'introduit auprès des grands scientifiques de son temps. Et on a une œuvre là qui regorge d'objets scientifiques en tout genre, des globes, des livres, des cartes, des squelettes, bref, tout l'outillage intellectuel et technique des scientifiques. Et dans ce contexte-là, Versailles va devenir la vitrine de la monarchie absolue, du pouvoir d'un seul homme qui règne en maître sur l'ensemble de son royaume. Versailles a un destin assez extraordinaire. Au départ, ce n'est qu'un modeste relais de chasse qui appartenait à Louis XIII. Et en quelques décennies, ce modeste relais de chasse va devenir l'un des plus beaux palais européens. Au-delà, la gageure était la suivante, quitter Paris pour Versailles, qui est à l'époque un lieu marécageux, franchement peu hospitalier. Et la gageure est également la suivante, il s'agit de se fixer en un seul et même lieu. Auparavant, la cour, elle était itinérante. On allait de Saint-Germain à Vincennes, en passant par le Louvre. Et là, désormais, il y a cette volonté de fixer la cour en un lieu bien précis. Ce choix étonne. Ce choix étonne les contemporains, et notamment Saint-Simon, qui ne comprend pas du tout ce choix un peu abracadabrant. Il compare Versailles à un château de cartes. Donc, c'est vous montrer le mépris un peu qu'il éprouve pour cette demeure. Et Saint-Simon était un grand adorateur de Saint-Germain. Donc, il quitte Saint-Germain à regret et il considère que le choix de s'installer à Versailles est un peu étonnant. Voici ce qu'il écrit. Saint-Germain, lieu unique, il l'abandonna pour Versailles, le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux. Sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant ou marécage, sans air par conséquent qui n'y peut être bon. Il se plut à tyranniser la nature, à la dompter à force d'art et de trésors. Il y bâtit tout l'un après l'autre, sans dessein général. Le beau et le vilain furent cousus ensemble, le vaste et l'étranglé. Les jardins, dont la magnificence étonne, mais dont le plus léger usage rebute, sont d'aussi mauvais goût. On y est conduit dans la fraîcheur de l'ombre que par une vaste zone torride, au bout de laquelle il n'y a plus, où que ce soit, qu'à monter et à descendre. Et avec la colline, qui est fort courte, se terminent les jardins. La violence qui a été faite partout à la nature repousse et dégoûte, malgré soi. L'abondance des eaux forcées et ramassées de toutes parts les rend vertes, épaisses, bourbeuses. Elles répandent une humidité malsaine et sensible, une odeur qui l'est encore plus. Leurs effets, qu'il faut pourtant beaucoup ménager, sont incomparables. Mais de ce tout, il résulte qu'on admire et qu'on fuit. Du côté de la cour, l'étranglé suffoque et ses vastes ailes s'enfuient sans tenir à rien. Du côté des jardins, on jouit de la beauté du tout ensemble, mais on croit voir un palais qui a été brûlé, où le dernier étage et les toits manquent encore. Donc voilà, on a un point de vue très négatif. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter à ce point de vue, puisque la plupart des contemporains vont s'extasier devant la beauté de Versailles. Sous Louis XIV, la cour va s'organiser autour de la vie quotidienne du roi. Bon, ça c'est plus ou moins le cas depuis le XVIe siècle, mais tout ce rituel monarchique avait été assoupli sous le règne de Henri IV et de Louis XIII. Et en fait, Louis XIV va remettre ce cérémonial au goût du jour. C'est stratégique là encore, hein, je le rappelle. Louis XIV avait été profondément ébranlé par la Fronde et par toutes ces contestations à l'encontre du pouvoir royal. Et donc, à travers ce cérémonial, il y a la volonté d'éblouir et de fixer les courtisans à la cour. Il y a un ouvrage très important sur Versailles et sur cette dimension scénique, c'est La Société de cour de Norbert Elias. Je fais juste une petite parenthèse parce que je ne suis pas sociologue et ce n'est pas du tout ma spécialité, mais Norbert Elias a bien montré que Versailles a une dimension scénique, que c'est un décor savamment construit pour éblouir et pour convaincre de la puissance de Louis XIV. Et dans ce contexte-là, le véritable chef d'orchestre de cette pièce de théâtre, grandeur nature, c'est bel et bien le souverain. Donc au départ, je l'ai dit, Versailles n'est qu'un modeste relais de chasse, et le point de départ de cette entreprise grandiose, c'est la jalousie à l'égard d'un homme, Nicolas Fouquet, qui est surintendant des finances. Et Nicolas Fouquet va se faire construire une demeure magnifique, prodigieuse, Vaux-le-Vicomte. En août 1661, le roi Louis XIV, la cour, découvre ce chantier achevé sur lequel ont travaillé les plus grands artistes de l'époque, l'architecte Louis Le Vau, le jardinier André Le Nôtre ou encore le peintre Charles Lebrun. Le décor est grandiose, la réception est mémorable, le dîner concocté par Vatel, on donne à voir les Fâcheux de Molière, qui est une comédie-ballet qui multiplie les artifices scéniques, s'ensuit un feu d'artifice absolument mémorable. Bref, tout est fabuleux et tout est grandiose. Et Louis XIV est outré par tant d'impudence, d'autant plus que, à ce moment-là, Jean-Baptiste Colbert, qui est intendant des finances, mène un savant travail de sape qui vise à dénigrer et à décrédibiliser Fouquet. Fouquet, il ne s'est pas assez méfié de toutes les calomnies qui couraient sur lui à cette époque. Il continue de mener un train de vie très dispendieux et très naïvement, donc, il donne une réception qui va provoquer la colère et la jalousie de Louis XIV, mais ça n'a pas traversé l'esprit de Fouquet que cela pouvait provoquer des conséquences aussi importantes. Des conséquences très importantes puisque quelques semaines après, Fouquet est arrêté et Louis XIV garde dans un coin de sa tête cette idée-là et sollicitera ses artistes, Le Nôtre, Le Vau, Lebrun, pour la construction de Versailles. Alors, par rapport à cette construction de Versailles, il y a une date assez importante, la date de 1668. En 1668, on a la fin de la guerre de dévolution. Cette guerre de dévolution, elle est assez courte, hein, elle dure un an. Elle débute en 1667, elle se termine en 1668. Et c'était une guerre qui opposait la France à l'Espagne. Louis XIV était lié à cette couronne d'Espagne, puisqu'il avait épousé la fille du roi, Philippe IV d'Espagne. Et lorsque Philippe IV d'Espagne meurt, Louis XIV a des prétentions sur certains territoires qu'il convoite. Ces territoires sont une partie des Pays-Bas, une partie du Luxembourg et la Franche-Comté, qui est incluse naturellement dans les frontières de la France. Donc Louis XIV ne voit pas pourquoi ce territoire n'appartiendrait pas à la France. Donc Louis XIV se lance dans cette guerre qu'on appelle la guerre de dévolution. Le terme, en fait, vient d'une vieille coutume du Brabant, une coutume dite de dévolution. Et le Brabant était un territoire qui appartenait à la couronne d'Espagne. Bref. Guerre de dévolution, et cette guerre de dévolution se solde par une victoire pour Louis XIV. Et donc, au lendemain de cette victoire, Louis XIV va demander à l'architecte Louis Le Vau, l'architecte de Vaux-le-Vicomte, de construire un nouveau château. Alors, en fait, Louis Le Vau ne va pas construire un château ex nihilo. Il va se contenter de réaliser une enveloppe pour englober l'édifice préexistant, qui était donc ce relais de chasse de Louis XIII. Encore quelques photos de Vaux-le-Vicomte. Et voilà. Là, on a justement une œuvre peinte par un artiste de l'époque, Pierre Patel, une œuvre peinte en 1668 et qui donne à voir ce château de Versailles dans ses débuts. Il n'y a pas encore toutes les constructions réalisées par Le Vau, puis par la suite par Ardoin Mansart. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, Versailles est conçu comme un lieu de retraite. Il y a une dimension affective, hein. Il y a vraiment cette volonté de se retrouver sur les lieux qui ont vu vivre son père, le roi Louis XIII. Et donc, en quelques décennies, je le disais tout à l'heure, l'édifice va se transformer en un chantier grandiose et, d'un point de vue politique, en une formidable entreprise de centralisation. Ça se fait pas sans mal, et les contemporains de l'époque l'attestent. C'est un chantier très très important hein, qui voit des milliers et des milliers d'ouvriers travailler. Et on a certains témoignages qui montrent un peu les coulisses de ce chantier. Et on a notamment le témoignage de Félibien, qui est un historien du XVIIe siècle et qui a écrit tout un tas de chroniques sur Versailles. Et Félibien rapporte un épisode assez malheureux, la punition d'une femme qui a osé rudoyer Louis XIV après la mort de son fils sur le chantier du château. Félibien écrit « Une femme qui avait perdu son fils d'une chute pendant qu'il travaillait aux machines de Versailles et qui avait été taxée à la chambre de justice, outré de douleur, présenta un placé en blanc pour être remarquée. Et en effet, on lui demanda en riant ce qu'elle prétendait. En même temps, elle dit des injures au roi, l'appelant putassier, roi machiniste, tyran et mille autres sottises et extravagances dont le roi, surpris, se demanda si elle parlait de lui. À quoi elle répliqua que oui et continua. Elle fut prise et condamnée sur le champ à avoir le fouet et menée aux petites maisons. Le fouet lui fut donné par le bourg de Saint-Germain avec une rigueur extrême et cette femme ne dit jamais mot, souffrant ce mal comme un martyr et pour l'amour de Dieu. Voilà, c'est un texte assez intéressant parce qu'on a peu de textes finalement sur les coulisses de Versailles. On se pâme devant la beauté et la splendeur du château, mais on oublie parfois un peu trop souvent qu'il y a des centaines et des centaines d'ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier gigantesque et que cela ne s'est pas fait sans mal. Ces chantiers de Versailles sont chapeautés par la surintendance des bâtiments et c'est Colbert qui va être nommé surintendant. Il va jouer donc un rôle très très important dans l'élaboration de ce chantier puisque c'est d'abord à lui que sont présentés les projets. Colbert, il a un rôle inquiet. Il est assez paniqué devant l'ampleur des travaux et il va sans cesse tenter de nuancer, de modérer Louis XIV et ses ambitions ô combien démesurées. J'évoquais tout à l'heure la guerre de dévolution, il faut évoquer une autre guerre qui a aussi un rôle très important dans la création de Versailles, c'est la guerre de Hollande. Alors ça c'est une guerre plus longue, elle a lieu de 1672 à 1678, et c'est une guerre, ça c'était Jean-Baptiste Colbert, c'est une guerre qui est une guerre commerciale, qui va engager la France et les Provinces Unies. Les Provinces Unies c'est la partie nord des Pays-Bas, et la France en fait... veut contrecarrer l'hégémonie commerciale des Provinces Unies sur le reste de l'Europe. Donc au départ, c'est une guerre entre deux pays, la France et les Provinces Unies, et puis en fait, il va y avoir toute une coalition de pays européens qui va se liguer contre la France. C'est une guerre qui va se solder par une victoire pour Louis XIV, c'est pour ça que j'en parle. On a justement un des épisodes de cette guerre peint par Joseph Paroussel, Louis XIV dirigeant le siège de Maastricht. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui vont illustrer les hauts faits guerriers de Louis XIV et qui vont réinventer l'histoire, qui vont la réécrire. Il y a toujours une représentation très glorieuse, très valeureuse du roi guerrier qui n'hésite pas à braver les dangers. Voilà, il y a cette volonté de donner une image d'un roi téméraire, d'un roi glorieux. Cette guerre de Hollande, elle est soldée par les traités de Nimègue en 1678 et 1679. Et grâce à ces traités, la France va récupérer un certain nombre de territoires. Et c'est une véritable victoire pour Louis XIV qui devient un peu un chef d'orchestre à l'échelle de l'Europe. Ça, c'est un autre épisode de cette guerre de Hollande, peint par un artiste flamand, Adam van der Meulen, qui était un artiste spécialisé dans les scènes de bataille. Toujours cette image du roi glorieux, hein, donnant des ordres devant cette scène de bataille. Bon, la représentation ici n'est pas de très bonne qualité. Néanmoins, c'est un artiste qui est flamand, donc il y a ce goût pour le réalisme et ce goût pour les détails. Et en fait, quand on est face à ce tableau, il y a une multitude de détails qui sautent aux yeux. Mais malheureusement, la reproduction n'est pas très éloquente. Quoi qu'il en soit, au lendemain de ces traités, Louis XIV décide de se fixer à Versailles et de faire de ce lieu non seulement la résidence de la cour, mais également le siège du gouvernement. À cette époque, Versailles est un chantier gigantesque. Mais cela ne freine pas Louis XIV, qui décide de faire émigrer toute la cour dans ce lieu. Alors, plusieurs artistes vont travailler à ce chantier gigantesque, et notamment l'architecte Louis Le Vau. Donc Louis Le Vau, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un architecte qui travaille à Vaux-le-Vicomte. C'est un homme qui appartient à une dynastie d'entrepreneurs et d'architectes, et il va être nommé en 1654 le premier architecte du roi. Il réalise un certain nombre d'édifices pour le roi, pour son entourage. On peut évoquer notamment... Alors, petite parenthèse, ça c'est un portrait de Louis Le Vau, un portrait anonyme. Donc on voit l'architecte posant devant l'une de ses créations. Et je voulais m'arrêter un instant sur cette œuvre-là, c'est l'Institut de France, qui est réalisé entre 1661 et 1668. L'Institut de France, il a été fondé en 1661 par Mazarin, et c'était une belle entreprise, puisque c'était un lieu destiné à accueillir et à éduquer gratuitement des gens originaires des quatre nouvelles provinces réunies à la France par des traités, les traités de Westphalie et les traités des Pyrénées. Et ces quatre provinces, ces quatre nations vont donner le nom originel de ce bâtiment qui auparavant s'appelait le Collège des quatre nations. Autre réalisation de Levaux, le château de Vincennes, qui est un château qui a une très longue histoire, hein, c'est une résidence royale depuis le Moyen-Âge. Le château de Vincennes, il est connu parce qu'il a été profondément remanié au XIVe siècle par le roi Charles V. Et en fait, quand on voit ce tableau aujourd'hui, on a une espèce d'immense château fort cerclé par une enceinte. Et en fait, sur ce bâti médiéval, Levaux va ajouter des constructions typiques du XVIIe siècle, en l'occurrence deux pavillons, le pavillon du roi et le pavillon de la reine. Donc voilà, c'est un architecte qui a l'habitude de travailler sur de l'ancien, de s'inspirer de cet ancien et d'y greffer, en quelque sorte, des constructions modernes. Tout s'harmonise, et voilà, tout s'harmonise. Donc à Versailles, je le disais tout à l'heure, il va créer une enveloppe pour englober les bâtiments préexistants. Lorsque j'évoquais tout à l'heure Saint-Simon et sa description de Versailles, il y a peut-être un détail qui vous a frappé. Saint-Simon déplorait l'horizontalité de Versailles. En fait, un des choix esthétiques de Levaux, c'est de camoufler les couvertures. Donc en fait, on a des toits plats et ces couvertures sont camouflées par des balustrades. Donc il y a une grande horizontalité qui frappe les contemporains à cette époque. Levaux va réaliser les grands appartements, le grand appartement du roi, le grand appartement de la reine. En fait, ce sont les enfilades de salons. Et j'y reviendrai tout à l'heure, les décors peints sont l'œuvre de Charles Lebrun. Ce sont des décors qui sont grandioses et qui sont destinés à frapper les courtisans, à frapper les visiteurs. Ce sont des lieux qui sont le cadre des activités officielles du roi, donc tout est fait justement pour éblouir et pour montrer aux yeux de tous, aux yeux de toute l'Europe, eh bien, la puissance du roi et le faste qui règne à sa cour. Cette photo-là est une photo qui vous montre le salon de Vénus. Le salon de Vénus, c'était l'aboutissement d'un escalier qu'on appelait l'escalier des ambassadeurs. C'est un espace qui est aujourd'hui détruit, hein. Ça a été démoli au XVIIIe siècle sous le règne du roi Louis XV. Et c'était un escalier donc conçu par Levaux et par Lebrun, et un escalier magnifique, décoré par des marbres de toutes les couleurs, donc on était vraiment dans l'opulence et dans le faste. Et Lebrun avait réalisé tout un décor de trompe-l'œil. Donc on était vraiment dans un lieu où l'illusion était reine, et c'était un lieu véritablement de représentation, puisque c'était là qu'étaient accueillis les ambassadeurs. Et c'était une sorte d'introduction grandiose à toute la promenade qui attendait les ambassadeurs dans le château de Versailles. À la suite de Louis Levaux, un architecte va marquer de son empreinte le château de Versailles, c'est Jules Ardoin-Mansart. On le voit ici peint par Hyacinthe Rigaud, qui est un des grands portraitistes des XVIIe et XVIIIe siècles, et on le voit posé devant l'un de ses chefs-d'œuvre, l'église des Invalides à Paris. Jules Ardoin-Mansart, c'est le petit-neveu d'un grand architecte du XVIIe siècle, François Mansart, auprès duquel il se forme, et Ardoin Mansart donc va mettre en exergue cette filiation en apposant le nom de Mansart à son nom Ardoin. Jules Ardoin Mansart est un personnage habile, intelligent, qui va bien s'entourer. Il bénéficie du soutien de Jean-Baptiste Colbert, il bénéficie du soutien également de Madame de Montespan, qui est à ce moment-là la favorite du roi Louis XIV. Et donc, patronage prestigieux, chantier prestigieux, Jules Arvin Mansart va réaliser un grand nombre d'édifices, de palais, d'hôtels particuliers pour le roi et pour son entourage proche. On peut évoquer notamment le château de Clagny qui malheureusement n'existe plus. Il a disparu au XVIIIe siècle et c'était un château justement qui avait été réalisé pour les enfants de Louis XIV et de Madame de Montespan. Autre œuvre d'Ardouin Mansart, on peut évoquer le château du Val à Saint-Germain-en-Laye. C'était un château qui initialement appartenait à Henri IV et en fait il est reconstruit par Ardouin Mansart et c'est Louis XIV justement qui lui demande bien de reconstruire et d'embellir cette demeure. Et puis l'autre œuvre très importante d'Ardouin Mansart que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'église des Invalides. L'hôtel des Invalides, il est créé au XVIIe siècle, hein, c'est une commande de Louis XIV pour abriter justement les soldats invalides ou alors trop âgés pour servir encore. Et donc Ardouin Mansart ne va pas réaliser l'hôtel des Invalides, il va simplement réaliser cette église, qui est une église à l'époque gigantesque, grandiose et qui est vraiment un point majeur dans la topographie de Paris. Ardouin Mansart donc est très bien entouré et il a une ascension rapide. Il est membre de l'Académie royale d'architecture dès 1675. Il devient, quelques années plus tard, en 1681, le premier architecte du roi. Et puis, en 1685, inspecteur général des bâtiments. Donc, la carrière connaît son apothéose. Et puis, il y a une autre date très importante dans cette carrière-là, c'est 1691, où la consécration ultime, Ardouin Mansart devient surintendant des bâtiments. C'est un titre très prestigieux puisqu'il va, grâce à cela, chapeauter tous les chantiers artistiques du royaume. Donc c'est un homme important, mais c'est aussi un architecte donc, qui réalise de nombreux travaux dans Versailles. C'est lui notamment qui va construire les ailes nord et sud du château et qui va donc être l'architecte de la Galerie des Glaces. Alors, je m'arrête un instant sur cette Galerie des Glaces. C'est un décor, c'est le décor le plus connu sans doute du château, un décor extrêmement riche, extrêmement onéreux. Hein, la Galerie des Glaces, elle tient son nom des miroirs qui jalonnaient la promenade des visiteurs. Hein, c'est une galerie assez importante et elle est décorée par des peintures qui sont l'œuvre de Charles Lebrun. Je m'y arrêterai plus longuement tout à l'heure. Bref, c'est un décor prodigieux qui va profondément marquer les contemporains. À Versailles, Jules Ardouin Mansart réalise notamment l'orangerie. Donc l'orangerie, en fait, c'est un bâtiment, hein, c'est une galerie centrale qui est prolongée par deux galeries latérales. Il me semble, voilà, j'ai pas trouvé d'image. Donc une galerie centrale prolongée par deux galeries latérales et qui s'ouvre sur un vaste parterre. Et sur ce parterre, eh bien, il y avait tout un tas d'essences rares, des orangers, des citronniers. Et bref, une parenthèse d'exotisme qui faisait également de Versailles un lieu bien à part. On le voit ici, ce parterre de l'orangerie peint par un artiste qui s'appelle Jean Cotel, qui en fait a peint la plupart des lieux connus ou méconnus des jardins de Versailles. Et dans les représentations de Jean Cotel, il y a à la fois une vision très idéalisée de ces jardins et il y a également l'intrusion de personnages issus de la mythologie. Donc on est dans un univers très poétique, dans un univers très idéalisé qui vise à sublimer la cour de Louis XIV. Autre œuvre d'Ardouin Mansart à Versailles, le Grand Trianon, réalisé à partir de 1687. C'est un bâtiment qui a été construit sur un édifice préexistant qu'on appelait le Trianon de porcelaine, qui avait été construit par Levaux pour abriter justement les amours entre Louis XIV et Madame de Montespan. Et donc cette construction est supprimée au profit du Grand Trianon, qui est une construction basse, toujours, on le voit à l'arrière-plan, avec des toits plats. Hein, l'horizontalité prime à Versailles. Et tout autour de ce Grand Trianon, la végétation tient une place très importante. Hein, il y a plusieurs milliers de plantes qui sont cultivées. Et en fait, malheureusement, j'ai peu trouvé d'illustrations sur le net. L'architecture est au service de la nature. il y a cette volonté, Chardouin-Mansart, d'inscrire l'architecture dans cet écrin de verdure et du coup de réaliser des œuvres extrêmement harmonieuses. On est un peu comme dans un rêve, le spectateur promeneur déambule dans Versailles et découvre au hasard des bosquets, au hasard des fontaines, eh bien, des monuments, des statues qui concourent à faire de Versailles un lieu idéal. Autre œuvre d'Ardoin-Mansart, la chapelle royale, qui est construite à partir de 1689 et qui sera achevée bien après sa mort. Et c'est une chapelle qui est également très, très fastueuse, très opulente. Il y a de nombreux artistes qui ont travaillé à ces décors. Et c'est une œuvre, c'est une des œuvres également les plus connues d'Ardoin-Mansart pour Versailles. Alors, il n'y a pas que des architectes qui s'affairent à Versailles, il y a aussi des jardiniers. Le jardin a une place très importante. Le jardin est un écrin pour le château. C'est une sorte de gigantesque scène de théâtre une gigantesque scène de théâtre qui va être justement le théâtre de fêtes, de ballets, de pièces de théâtre. On est vraiment dans un lieu de représentation. Et l'homme qui s'affaire à Versailles pour les jardins, c'est André Le Nôtre. André Le Nôtre, il appartient à toute une dynastie de jardiniers. Son père avait la responsabilité du jardin des Tuileries, notamment. Et donc, par cette ascendance, Le Nôtre s'impose d'emblée par sa légitimité. Au départ, il a une formation de peintre. Vraisemblablement, il s'est formé auprès de Simon Vouet, qui est un des grands artistes du début du XVIIe siècle. Et c'est auprès de cet artiste qu'il développe son goût pour le dessin, pour la couleur, la géométrie et l'harmonie des formes. Et on va le voir. Dans les jardins de Le Nôtre, il y a toute une dimension picturale, c'est-à-dire qu'il y a tout un jeu sur les perspectives, sur la lumière. Il y a également une dimension architecturale, avec des jeux sur la forme, sur les espaces, et une dimension technique, puisque ces jardins sont des chefs-d'œuvre de technicité, d'aménagement en tout genre, notamment en matière d'hydraulique. On va le voir tout à l'heure. Donc André Le Nôtre, il a travaillé à Vaux-le-Vicomte, je l'évoquais tout à l'heure, mais il travaille également sur certains chantiers menés sous l'autorité du roi ou de ses proches. On peut évoquer notamment le château de Saint-Germain-en-Laye, très prisé donc par Saint-Simon, je le disais tout à l'heure. Le Nôtre va donc réaliser des jardins grandioses pour ce château. Autre œuvre de Le Nôtre, Chantilly. Alors ça, c'est une œuvre assez intéressante parce que le château de Chantilly n'appartenait pas au roi, mais au prince de Condé, qui était son cousin. Et le prince de Condé, ça va être l'un des grands protagonistes de la Fronde. Et donc du coup, une fois ces événements passés, Louis XIV va être, un peu méfiant les relations seront très houleuses entre les deux personnages. Et donc, le prince de Condé a cette volonté de titiller Louis XIV et de rivaliser avec Versailles, et donc il va solliciter les artistes les plus importants de son époque pour faire de Chantilly une demeure susceptible d'épater la galerie. Et donc effectivement, à Chantilly, les jardins de Le Nôtre sont à cette époque une œuvre particulièrement grandiose. Auparavant, petite parenthèse, les jardins étaient dessinés par des architectes, et puis au XVIIe siècle, petit à petit, les jardiniers vont devenir les véritables maîtres d'œuvre. Autre évolution au XVIIe siècle, les jardins sont de plus en plus vastes, et l'immensité de ces jardins va avoir un impact sur leur dessin. Pour résumer, auparavant, les jardins présentaient des petits compartiments, et dans ces compartiments, on avait tout un tas de motifs différents, un peu à la façon d'un patchwork. Désormais, les jardins sont de plus en plus importants, de plus en plus vastes, et en fait, on va avoir de nouveaux aménagements, notamment des grands parterres, sur lesquels les motifs s'étendent. Et on a donc des perspectives nouvelles qui s'offrent aux jardiniers et aux architectes de l'époque. Les jardiniers et les architectes travaillant de façon fructueuse, il y a un dialogue fécond qui s'établit entre les deux maîtres d'œuvre. Alors à Versailles, l'aménagement des jardins va devancer celui du château. Le Nôtre fait un travail titanesque à Versailles. Le site est totalement recomposé. Les marécages sont curés, les plans d'eau sont aménagés, un grand canal est creusé. Bref, des travaux de grande ampleur. Le jardin, je le disais tout à l'heure, est conçu comme une scène. On est dans la séduction. Le jardin doit servir le château et donc son dessin doit offrir des perspectives nouvelles. Et il y a vraiment tout un tas d'effets de surprise qui sont inventés par le nôtre pour surprendre, pour séduire le spectateur. Alors parmi ces surprises, on peut évoquer par exemple les statues, les groupes sculptés. On peut évoquer la grotte de Tétis. Alors la grotte de Tétis, telle qu'on la voit ici, elle n'existe plus. Les sculptures ont été conservées, mais cet aménagement-là a disparu. Cet aménagement a disparu dès la fin du XVIIe siècle, et c'était un aménagement qui était éblouissant au sens propre du terme, puisque les parois de cette grotte étaient tapissées de miroirs, de rocailles, de coquillages, de cristaux. Bref, un décor qui visait à éblouir, hein, au sens propre du terme, le spectateur. Donc il y a tout un tas de surprises, de ruptures inventées par le nôtre pour surprendre le spectateur. Ces jardins, je le disais également, sont des scènes grandioses pour les spectacles en tout genre donnés sous le règne de Louis XIV. On a ici une gravure qui représente le Grand Canal et on voit justement sur ce Grand Canal, au fond, tout un tas de navires qui circulent. Les aménagements sont multiples pour faire de Versailles une fête permanente. Et tout à l'heure, j'évoquais André Philibien, je voudrais le convoquer à nouveau. André Philibien évoque, dans l'extrait que je vais vous lire, tout un tas de fêtes qui ont été données en 1674 pour célébrer la conquête de la Franche-Comté pendant la guerre de Hollande. Et le 31 août, c'est le dernier jour des festivités, et le canal et les jardins sont illuminés pour magnifier le défilé du roi. Et Philibien écrit « Dans le profond silence de la nuit, l'on entendait les violons qui suivaient le vaisseau de Sa Majesté. Le son de ces instruments semblait donner de la vie à toutes les figures dont la lumière modérée donnait aussi à la symphonie un certain agrément qu'elle n'aurait point eu dans une entière obscurité. Pendant que les vaisseaux voguaient avec lenteur, l'on entrevoyait l'eau qui blanchissait tout autour. » Et les rames qui la battaient mollement et par les coups mesurés, marquées comme des sillons d'argent sur la surface obscure des canaux. L'on n'apercevait alors que de l'eau renfermée par l'obscurité de la nuit. Une si rare magnificence arrêta longtemps avec plaisir les yeux de toute la cour, qui ne pouvait se lasser d'admirer les merveilleux effets de ces illuminations, dont les images paraissaient encore dans le fond de l'eau comme d'autres palais et d'autres figures plus grandes que les véritables. Toutes sortes de poissons semblaient s'être rangés au bord de l'eau pour voir passer sur leur élément comme en triomphe le plus grand roi du monde. Une multitude d'autres que l'on voyait dans l'eau semblaient là comme les spectateurs muets de toute la pompe royale dont les canaux de Versailles étaient honorés pendant la nuit. Ça vous donne une idée du caractère grandiose, mythique de ces fêtes données à Versailles. Et de fait, il y aura de nombreuses fêtes nautiques qui prendront place sur ce grand canal. Alors, pour vous donner quelques exemples des aménagements créés par le nôtre dans le jardin de Versailles, je vais vous présenter certaines œuvres en particulier. Petite parenthèse, je ne suis pas très au point avec mon PowerPoint, voici un exemple de décor réalisé pour ces fêtes nautiques. Donc on est vraiment dans l'inventivité totale, l'imagination est débridée, et le but du jeu, c'est de rivaliser à chaque fois avec les fêtes précédentes et d'éblouir, de surprendre les courtisans de l'époque. Voilà, autre exemple de fête. Là, c'est une gravure qui vous montre un buffet pour un dîner donné dans les jardins de Versailles. Alors, un exemple des aménagements créés par le nôtre dans les jardins de Versailles, la salle de bal. Alors, la photo est épouvantable, donc faites-moi confiance. Ça, c'est une œuvre qui est, là encore, indissociable de la fête. La salle de bal, c'était une composition avec une île au centre pour la danse. On avait des musiciens qui étaient installés tout autour, et en fait, le public prenait place sur ces marches de gazon. Donc, c'est un rapport à la nature totalement idyllique. Hein. Il y a une symbiose entre l'homme avec un grand H et la nature avec un grand N. Et tout est fait pour séduire, pour éblouir. J'évoquais tout à l'heure les aménagements hydrauliques menés par le nôtre. On peut évoquer notamment les grands parterres d'eau. J'évoquais également tout à l'heure cette imbrication étroite entre architecture et nature. Tous ces travaux hydrauliques n'ont pour d'autre but que de servir l'architecture. Et en l'occurrence, ils sont, ces miroirs d'eau reflètent la beauté de l'architecture du château. Et il y a vraiment une symbiose entre l'architecture proprement dite et tous les éléments, l'eau, la terre, tous ces éléments de la nature qui visent à sublimer l'architecture. Voilà, des photos de ces grands parterres. Le nôtre, c'est vraiment le premier jardinier à concevoir une œuvre d'art totale où se mêlent à la fois l'architecture, la sculpture et le jardin proprement dit. Ardan Mansart va chapeauter par la suite le chantier et à ce moment-là, un changement notable va survenir. Les jardins vont devenir un musée où sont entreposées des sculptures, soit des œuvres originales, antiques, soit des copies. Donc on est dans la collection. J'évoquais la semaine dernière les collections des princes italiens du Quattrocento. Là encore, les collections menées par Louis XIV, on est dans une même dynamique, dans une volonté de montrer à tous à la fois son goût d'esthète, mais à la fois également sa puissance et son prestige. Ardan Mansart, il est le réalisateur de la colonnade et Jean Cotel a peint cette colonnade et il intègre ici l'Antiquité. Il intègre l'Antiquité par ses figures mythologiques et également par les sculptures qui ornaient cet espace. Autre espace qui suscitait l'admiration, la curiosité des contemporains, c'est la ménagerie. La ménagerie, c'est une construction qui débute en 1663 sur les plans de l'architecte Levaux. C'est un lieu de démonstration, c'est un lieu de curiosité où étaient amassés des tas d'espèces animales différentes et c'est un lieu qui a beaucoup frappé les contemporains à l'époque. J'ouvrais en introduction sur un texte de La Fontaine, Les amours de Psyché et de Cupidon, et donc je vous décrivais cette déambulation de ces personnages à travers Versailles. Et justement, La Fontaine évoque à un moment cette ménagerie et il écrit « Nos quatre amis, étant arrivés à Versailles de fort bonne heure, voulurent voir, avant le dîner, la ménagerie. C'est un lieu rempli de toutes sortes de volatiles et de quadrupèdes, la plupart très rares, et de pays éloignés. Ils admirèrent en combien d'espèces une seule espèce d'oiseau se multipliait et louèrent l'artifice et les diverses imaginations de la nature qui se jouent dans les animaux comme elle le fait dans les fleurs. » Voilà, donc on donne à voir toutes les richesses de la terre et il y a aussi quelque part cette idée que Versailles est un musée vivant. À Versailles, il y a tout un tas de collections. J'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Et ces collections, elles sont aussi bien des collections d'objets, d'œuvres d'art proprement dites, mais aussi des collections naturelles. Voilà, une gravure qui présente là encore cette ménagerie. Il y a un artiste qui va beaucoup travailler dans ce lieu-là, c'est Pieter Boel, un artiste flamand connu aussi sous le nom de Pierre Boel. C'est un artiste flamand qui révolutionne la peinture animalière. On a des visions saisissantes de vie et c'est des œuvres qui sont aisément reconnaissables parce que ses études sont très modernes. Les animaux sont troublants de vie et ils se détachent sur un fond neutre. Et le musée du Louvre a tout un tas de collections de ces études-là. D'ailleurs, il y a quelques années, il avait fait une exposition très intéressante sur toutes ces études prises sur le vif. Donc voilà, Versailles, c'est un lieu où l'on peut voir toutes sortes de choses et notamment les merveilles de la nature. Alors, tout à l'heure, je parlais de Charles Lebrun. Il faut en venir plus précisément à cet artiste. On a un portrait ici de Charles Lebrun devant ses œuvres et devant les attributs des arts, un portrait peint par Nicolas de l'Argillière. Charles Lebrun, il se forme dans l'atelier de Simon Vouet et à l'instar d'Ardan Mansart, il est très bien entouré. Il bénéficie notamment de la protection d'un des grands mécènes de l'époque, le chancelier Séguier. Et Charles Lebrun va se former donc auprès de Vouet et va se former également à Rome. Il voyage à Rome avec Nicolas Poussin, qui est l'un des grands artistes de cette époque. Et à Rome, Lebrun va être frappé par les grands décors de l'époque. La Rome du XVIIe siècle, c'est la Rome de la contre-réforme, une Rome où abondent les œuvres baroques, des œuvres où il y a tout un tas de... comment dire, tout un tas de trompe-l'œil, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre de l'illusionnisme. La Rome de la contre-réforme, elle réhabilite avec force l'opulence des images qui avaient été mises à mal par la réforme. Le protestantisme combat les images, il combat d'une façon générale tous les fastes de l'Église catholique et romaine. Et donc il y a cette volonté au XVIIe siècle de réaffirmer l'image et de, comment dire, de réaffirmer également le dogme catholique. Donc on a des décors grandioses, des voûtes d'église qui sont des percées sur des espaces totalement illusionnistes, des chefs-d'œuvre du trompe-l'œil peints par des artistes comme Pierre de Cortone par exemple, et ce sont des décors qui vont beaucoup marquer Lebrun. Ça va beaucoup le marquer, ça va beaucoup l'inspirer dans sa carrière, lui qui va réaliser justement de nombreux trompe-l'œil pour les demeures royales. Et donc, Charles Lebrun va réaliser un certain nombre de décors, mais il réalise également des tableaux. Et je voulais ouvrir cette petite parenthèse sur Lebrun par ce tableau-là, l'entrée d'Alexandre le Grand dans Babylone. C'est un tableau qui est peint en 1665. En fait, il appartient à une série d'œuvres qui évoquent ce grand souverain de l'Antiquité, qui, pour la petite histoire, donc, a fondé un immense empire entre Asie et Europe. Et c'est un personnage, Alexandre, un personnage mythique. Les souverains, siècle après siècle, se sont plu à établir des comparaisons avec lui. Et ce n'est pas un hasard si Louis XIV acquiert cette œuvre-là pour ses propres collections. Il y a cette volonté de manifester une filiation avec des personnages mythiques comme Alexandre. Alors, Charles Lebrun, à Versailles, va réaliser les décors peints, la plupart du temps des décors peints en trompe-l'œil, et la grande œuvre de Lebrun, c'est le décor de la Galerie des Glaces. Alors, cette Galerie des Glaces, elle est édifiée à la fin de la guerre de Hollande, et en fait, c'est cette guerre de Hollande qui va être le thème de la décoration d'ensemble. Charles Lebrun va mythifier l'événement en insérant Louis XIV parmi les allégories et parmi les divinités de la mythologie. Donc on est totalement dans l'apologie du souverain et on est dans un projet grandiose qui vise à remémorer, à commémorer les hauts faits de Louis XIV. On est totalement dans une entreprise mémorielle, mais c'est une mémoire élastique. C'est une mémoire toute relative qui va être modelée et réinventée de façon à coller au plus près des ambitions royales. Alors, parmi les œuvres de cette Galerie des Glaces, le passage du Rhin en présence des ennemis. Donc, je le disais tout à l'heure, Louis XIV se taille la part du lion ici, puisqu'il va voisiner avec tout un tas de personnages tirés de la mythologie. On le voit ici, Louis XIV, sur son char, dans la partie droite de l'image. Il porte le foudre et il suit la voie indiquée par un personnage casqué devant Minerve. À l'arrière, on reconnaît Hercule, qui a une massue et qui menace un vieillard, et ce vieillard, en fait, personnifie le Rhin. Et puis, on a tout un tas de personnages qui s'efforcent justement d'arrêter cette course effrénée. Et tous ces personnages, évidemment, ont des dimensions très, très négatives, très, très péjoratives. Autre œuvre, le roi gouverne par lui-même, le roi qui est au centre, en armure, assis sur son trône, et auprès de lui, donc, tout un tas de personnages mythologiques. On reconnaît en fait à leurs attributs, de gauche à droite, les dieux romains, Vulcain, Pluton, Hercule, Neptune, Saturne, et Cérès et Mars. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la partie inférieure gauche, on la reconnaît à son manteau fleur d'Élysée, on voit l'allégorie de la France. Et dans cette œuvre-là, eh bien, la France, elle est dans une position inférieure à celle de Louis XIV. Donc, véritablement, c'est la figure du roi qui prime. Autre œuvre de cette galerie des glaces, Faste des puissances voisines de l'Europe. On a tout un tas de représentations allégoriques, là encore. Au centre, on a l'allégorie de l'Empire et de part et d'autre, les allégories de l'Espagne et des provinces unies. Et ce qui est intéressant, c'est que ces allégories sont accompagnées de plusieurs éléments qui visent à donner tout un tas de détails sur les personnages représentés. En fait, de part et d'autre, on a l'Espagne à gauche, qui voisine avec l'allégorie de l'ambition, qui est entourée d'un monceau de ruines. Et à droite, on a l'allégorie des provinces unies. Donc les provinces unies, je le rappelle, hein, c'est la partie nord des Pays-Bas. Et cette allégorie, elle voisine avec Thétis, hein, cette divinité marine de la mythologie. Et justement, la présence de cette divinité marine, elle rappelle la puissance commerciale et maritime que sont les provinces unies. Et alors ce cycle de la Galerie des Glaces est complété par les décors des salons de la guerre et des salons de la paix. Ces deux salons encadrent la galerie. Et là encore, célèbre les actions ô combien glorieuses du roi Louis XIV. Alors, dans le salon de la guerre, on a notamment le décor de cette coupole, la France foudroyant ses ennemis. Et on voit justement au centre de la coupole l'allégorie de la France qui brandit foudre et qui s'abrite derrière un bouclier sur lequel est peint Louis XIV, donc grand défenseur du royaume face à cette cohorte d'ennemis. Et en fait, donc malheureusement, l'illustration n'est pas de très très bonne qualité, mais il y a tout un tas d'éclairs qui émanent de cette allégorie de la France, et donc ces éclairs vont menacer les allégories représentées sur les parties qui voisinent. Voilà, je cherchais mon mot. Alors, parmi ces allégories, on a notamment la Hollande défaite. On a justement donc cette allégorie de la Hollande qui se protège de ses éclairs par son bouclier. Et donc, tout autour, eh bien, des éléments qui évoquent aux spectateurs la puissance maritime que sont les provinces unies. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le brin réalise une composition très anarchique, très chaotique. On a tout un tas d'éléments enchevêtrés et c'est pour montrer donc le chaos qui règne, hein, le chaos qui est consécutif à la guerre. Et cette représentation très, très anarchique, très chaotique, elle contraste avec la peinture de la coupole qui par contre était très équilibrée. Salon de la guerre, salon de la paix. Dans ce salon de la paix, même principe, un décor au niveau de la coupole qui représente les actions de la France, et là en l'occurrence la France qui donne la paix à l'Europe. La France, elle est représentée ici sur un char tiré par des colombes. Alors bon, là encore, hein, l'image n'est pas de très très bonne qualité, et donc cette France est une France victorieuse, désormais s'ouvre un règne de paix et un règne de prospérité pour l'Europe. Et on a vu tout à l'heure la Hollande terrassée par la guerre, voici la Hollande vivifiée par la paix au niveau de ce décor. Donc on voit la représentation de cette allégorie agenouillée qui reçoit des mains d'un amour, donc un rameau d'olivier qui est le symbole de la paix. Le brin, il était protégé par Colbert. À la mort de Colbert, sa situation change. Toujours ce côté un peu relatif et aléatoire de cette fonction de peintre de cour. À la suite de Colbert, c'est Louvois qui s'impose. Et Louvois va délaisser le brin et va imposer un artiste rival qui s'appelle Pierre Mignard. Et voilà, ça vous montre bien ce côté fragile de cette position de peintre de cour. Alors, il y a de nombreux artistes qui travaillent à Versailles, évidemment. On est dans un grand travail d'édification. Il faut sublimer cette figure de Louis XIV. Et on a ce portrait peint par Hyacinthe Rigaud. Hyacinthe Rigaud, je le disais tout à l'heure, c'est un des grands portraitistes des XVIIe et XVIIIe siècles. Et Hyacinthe Rigaud peint ce portrait très célèbre de Louis XIV. C'est plus un portrait de la fonction royale qu'un portrait du roi qui est représenté ici. Tout est fait pour sublimer cette fonction royale et on a un certain nombre d'artifices qui justement visent à théâtraliser la scène, notamment ce décor antiquisant. On discerne à l'arrière-plan cette colonne assez massive qui repose sur une base tout aussi massive. Et puis on a surtout cette tenture rouge et or qui vient sublimer l'image du monarque. À Versailles, il y a également un certain nombre de sculpteurs qui travaillent à la décoration et à l'embellissement des jardins. De nombreux sculpteurs dont malheureusement on ne sait pas grand-chose. On a certains parcours qui sont très bien détaillés, d'autres qui le sont moins. Bon, j'ai choisi de façon très arbitraire des œuvres qui me plaisaient et surtout qui montrent toute la virtuosité de ces artistes. C'est notamment le cas de cette œuvre-là, Les chevaux d'Apollon soignés par les tritons. C'est l'œuvre de deux frères, les frères Marcy, et on a une œuvre très, très vivante, très fougueuse, avec ces chevaux qui se cabrent, et la violence est telle que les tritons qui pansent leurs plaies sont obligés également de se cabrer. C'est une œuvre que je n'ai pas choisie par hasard, c'est une œuvre qui ornait auparavant la grotte de Tétis, que je vous montrais tout à l'heure, et qui a disparu à la fin du XVIIe siècle. Autre artiste qui travaille à Versailles, c'est Tubi. Jean-Baptiste Tubi, c'est un artiste originaire de Rome et en fait il va faire toute sa carrière en France et notamment à Versailles. Et Jean-Baptiste Tubi va réaliser des œuvres qui s'inspirent de la mythologie là encore. Le bassin d'Apollon est sans doute l'une des œuvres sculptées les plus fameuses de Versailles. C'est une composition très audacieuse là encore. Tout n'est que fougue, tout n'est que mouvement avec ces chevaux qui émergent de l'eau et on a cette furie, cette fougue palpable. Autre artiste, François Girardon, et l'une des œuvres les plus connues de François Girardon, c'est Apollon servi par les nymphes, qui ornait, elle aussi, cette grotte de Tétis disparue à la fin du XVIIe siècle. François Girardon, il va beaucoup s'inspirer de l'Antiquité, et il va réaliser ici donc un groupe sculpté qui montre donc Apollon entouré par toutes ces nymphes qui s'affairent autour de lui. Louis XIV est très marqué par la mythologie et par toutes les comparaisons qui peuvent être établies entre lui-même et entre les grands dieux de la mythologie. Et en l'occurrence, il se plaira beaucoup à être comparé par les artistes à Apollon, qui est une figure mythologique très, très importante et surtout une figure mythologique qui est protectrice des arts. Et Louis XIV se veut le protecteur des arts. C'est un amateur d'art féru de peinture, féru de danse et qui va d'ailleurs avoir un rôle très important dans... Je perds mes mots. Qui va avoir un rôle très important... Qui va avoir un rôle très important. Bref. Voilà. Bien. Autre œuvre de Girardon, le bassin de Bacchus. Donc en fait, il y a des tas de bassins dans ces jardins de Versailles qui ménagent des surprises pour le spectateur promeneur. Au détour d'une allée, on se trouve face à des bassins. Et là encore, la mythologie est convoquée. En fait, il y a quatre bassins créés par Girardon qui symbolisent les saisons. Bon, là, en l'occurrence, Bacchus, avec ses raisins tout autour de lui, symbolise l'automne. Et on a également le bassin de Flore qui symbolise le printemps, le bassin de Cérès qui symbolise l'été, le bassin de Saturne qui symbolise l'hiver. Donc toujours cette référence à l'Antiquité, une Antiquité joyeuse. On le voit ici dans cette figure très, très enjouée, pleine d'allégresse de Bacchus. L'enlèvement de Proserpine qui décorait là encore les jardins de Versailles. Proserpine, c'est la fille de Cérès, la déesse de l'agriculture, et c'est également la fille de Jupiter. Elle est enlevée elle est enlevée par Pluton, dieu des enfers. C'est un thème très représenté au XVIIe siècle, notamment par un sculpteur que nous allons aborder brièvement tout à l'heure, Bernin. Et enfin, autre œuvre que je voulais vous montrer. Alors, l'œuvre initiale a disparu. Là, on conserve ce bronze au musée du Louvre. C'est le monument équestre de Louis XIV. C'était une œuvre qui était destinée à orner l'actuelle place Vendôme. La place Vendôme, elle a été créée par Ardoin Mansart au XVIIe siècle. Et c'est une œuvre qui reprend les codes de la statuaire antique, et notamment la référence en la matière, c'est la statue équestre de Marc Aurèle qui est conservée à Rome. Et ce modèle de statue équestre va être très prisé par les souverains européens au fil des siècles. On peut évoquer notamment la statue équestre dite de Charlemagne, qui s'est plu à être représentée sous les traits d'un empereur romain. Charlemagne, c'est la Renaissance carolingienne, c'est la redécouverte de l'Antiquité, donc ce n'est pas un hasard si on convoque cette influence antique. Bref, quoi qu'il en soit, Louis XIV se fait représenter à la manière des empereurs de l'Antiquité, et c'est une figure extrêmement altière, hiératique, qu'on voit ici. Girardon a voulu magnifier la prestance du souverain. Tout est fait pour servir le roi et pour servir le souvenir du roi. Louis XIV est un collectionneur. Je vous parlais tout à l'heure des collections d'antiques, notamment disséminées dans les jardins de Versailles. Et il collectionne également les artistes de son temps. Et il va être très marqué par un artiste italien, Bernin, qui est un artiste polyvalent, un sculpteur, un architecte. Bernin, c'est l'incarnation même du baroque. Tout n'est que fougue, tout n'est que virtuosité. C'est un artiste qui fascine ses contemporains. Il est employé par tous les papes du XVIIe siècle pour réaliser les grands travaux architecturaux et urbanistiques de Rome. Et donc, il va être sollicité par Louis XIV. Il va être sollicité par Louis XIV pour réaliser des œuvres sculptées, et également pour réaliser un projet architectural, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure. On voit justement ici le buste de Louis XIV, réalisé donc par Bernin, j'évoquais tout à l'heure ce goût pour la virtuosité, ce goût pour le mouvement. On a cette draperie qui sublime la figure de Louis XIV. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une draperie qui est mouvante, qui donne l'impression que Louis XIV est dans une bourrasque de vent, et pourtant, malgré le déchaînement des éléments, il reste impassible, il reste fier et hiératique. Donc bon, voilà, c'est une vision très idéalisée du souverain. C'est une œuvre qui a réalisé en 1665, et en 1665 également, Louis XIV confie au Bernin un projet pour le Louvre. Et bon, c'est un projet qui est abandonné, qui ne sera pas choisi. On a des dessins de ce projet, et là je vous présente une maquette, donc un projet qui dynamise l'architecture. On a une façade mouvante, tout en courbe et en contre-courbe, et c'est un projet en fait qui va être abandonné pour une réalisation beaucoup plus classique, élaborée par Louis Levaux et par Claude Perrault. C'est la colonnade du Louvre. Et c'est une œuvre qui tranche avec le projet initial du Bernin, qui tranche par sa régularité et par sa symétrie, par son équilibre. Et ironie du sort, le gros œuvre est commencé alors que Louis XIV quitte précisément le Louvre pour s'installer à Versailles. Bref. Et autre œuvre du Bernin, c'est une statue équestre, mais alors là, une statue équestre très différente de celle réalisée par Girardon. On a ici Louis XIV sous les traits d'un personnage légendaire de la Rome antique, Marcus Curtius, et on est totalement dans le baroque, avec cette composition tout en déséquilibre, notamment ce cheval qui semble flotter dans les airs, et la fougue, la fureur de ce cheval contraste avec l'allure impassible et gracieuse de Louis XIV. Donc on est dans le baroque, on est dans le mouvement, on est dans l'excès, on est dans le caprice de la forme, et c'est une œuvre en fait qui va fortement déplaire à Louis XIV, qui va être assez déçu par cette débauche de mouvement, Et pour la petite histoire, c'est un exemple qui est passé à la postérité comparer et opposer l'esthétique classique et l'esthétique baroque. L'esthétique classique étant caractérisée par la régularité, l'équilibre, la symétrie, exemple type la colonnade du Louvre, et le baroque étant caractérisé par l'excès, le mouvement, exemple type le projet avorté du Bernin. Donc, collections diverses et variées, et ces collections, notamment, étaient concentrées dans un lieu bien précis à Versailles, le cabinet des médailles. En fait, les rois de France ont acquis, au fil des siècles, des collections diverses, hein, des collections de manuscrits, de monnaies, de pierres, d'orfèvrerie, et Louis XIV va décider d'installer cette collection à Versailles. Et là encore, il y a cette idée d'une mise en scène pour éblouir les contemporains. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cabinet des médailles, donc dans lequel étaient entreposées toutes les collections de Louis XIV, était précédé par un salon, et on voit une partie du décor ici. Ce salon s'appelait le salon de l'abondance, et de façon tout à fait éloquente, les allégories peintes ici sont des allégories de la magnificence royale, de l'immortalité et des beaux-arts. Bref, c'est une introduction magistrale à ce que le visiteur chanceux pourra découvrir dans ce cabinet des médailles. Je voulais terminer sur les entreprises menées par Louis XIV par par les Gobelins. Les Gobelins sont créés au XVIIe siècle par Colbert. Au départ, au XVe siècle, on a un atelier de teinture créé par une famille, la famille des Gobelins, d'où le nom. Et en fait, au XVIIe siècle, sur ce site-là, vont être rassemblés différents ateliers, des ateliers où travaillent des ébénistes, des peintres, des sculpteurs. Et cette manufacture des Gobelins va réaliser des travaux très prestigieux et des travaux qui visent à concurrencer les spécialistes européens de l'époque. Et au Gobelin, on va notamment réaliser un certain nombre de tapisseries et de tentures. C'est nouveau. Auparavant, c'était plutôt la spécialité des pays nordiques, et notamment des Flandres. Et là, il y a cette volonté de faire de la France un pays où voisinent les artistes les plus habiles, les plus prestigieux, et il y a cette volonté de faire une œuvre d'art totale. Je vous montre ici, pour illustrer mon propos, une tenture, la tenture de l'histoire du roi. C'est un projet voulu par Lebrun, qui a dirigé cette manufacture des Gobelins. Et Lebrun, dans cette tenture, a voulu réaliser une œuvre tout à la gloire de Louis XIV, puisque cette tenture illustrait les hauts faits du règne du roi Louis XIV. Donc on est toujours dans cette propagande, et c'est pour vous montrer que cette propagande, elle s'incarne vraiment dans tous les arts. Louis XIV, il meurt en 1715, et Versailles va être désertée pendant un bon moment. Elle va être désertée jusqu'en 1722. La ville va dépérir petit à petit, et puis la cour va revenir sous le règne de Louis XV dans ce palais et va le faire revivre. Et je voulais terminer en évoquant plusieurs choses. À Versailles, l'art est véritablement au service du pouvoir. On va développer un certain nombre de stratégies pour éblouir, pour séduire le courtisan, mais également le visiteur. Et quand je dis visiteur, je parle notamment des princes, des ambassadeurs des pays européens. On est donc dans une œuvre de propagande, et j'ai insisté tout au long de ce cours, mais je ne saurais trop insister là-dessus, on est vraiment face à une œuvre d'art totale. C'est-à-dire que les fastes de la royauté s'incarnent aussi bien dans l'architecture, dans la peinture, dans la sculpture, dans le jardin. Tout est fait pour magnifier ce lieu qui incarne la royauté. Ce programme artistique qu'est Versailles va profondément influencer les souverains européens des XVIIe et XVIIIe siècles. Et en Europe, on a un certain nombre d'édifices qui s'inspirent plus ou moins fidèlement de Versailles. Alors c'est le cas en Espagne du palais de la Granja, qui a été réalisé sous le règne de Philippe V. Philippe V qui était lié à Louis XIV puisque c'était son grand-père. Et dans ce palais de la Granja, on a notamment des jardins qui évoquent beaucoup les créations de Le Nôtre. Autre œuvre architecturale qui s'inspire de Versailles, c'est le palais d'été de Pierre le Grand, non loin de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg qui a été créé ex nihilo par Pierre le Grand. Pierre le Grand qui était très féru d'art et qui voulait rivaliser avec les constructions de l'époque. Saint-Pétersbourg, c'est une volonté aussi de créer ex nihilo une ville qui va pouvoir séduire les contemporains comme Versailles. Et puis, autre œuvre choisie de façon tout aussi arbitraire, le palais de Sanssouci en Allemagne, qui a été réalisé sous le règne de Frédéric II le Grand. Frédéric II le Grand, c'est l'archétype du despote éclairé au XVIIIe siècle, et c'était un francophile convaincu, il était tellement francophile d'ailleurs qu'il a imposé le français à sa cour. Bref, quoi qu'il en soit, Frédéric II le Grand va, pour son palais de Sanssouci, profondément s'inspirer lui aussi des travaux réalisés à Versailles. Et je voulais terminer, alors c'est un peu hors sujet, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, je voulais terminer par le devenir de Versailles. À la chute de l'Ancien Régime, Versailles va progressivement revêtir une dimension romanesque. Ça va devenir un lieu de mémoire. Ça l'a toujours été, et ça a été l'ambition première de Louis XIV, mais la royauté quittant Versailles, c'est intéressant de s'intéresser à... C'est intéressant, oui, c'est pas très français. Bref, c'est intéressant de réfléchir à ce que devient Versailles dans la mémoire collective. Et en l'occurrence, ça devient un lieu un peu onirique qui va cristalliser tous les fantasmes. Et on a un certain nombre d'écrivains qui vont se prendre à rêver sur ces lieux de splendeur passée. Et donc, je voulais terminer par la vision poétique d'un Versailles spectral, fantomatique, qui se délite inexorablement. Une vision très nostalgique d'un temps qui a été et qui n'est plus. Cette vision, elle est livrée par un écrivain que j'aime beaucoup, Théophile Gautier. Et donc, c'est un peu hors sujet, mais en même temps, je ne pouvais pas m'en empêcher. Théophile Gautier écrit, je le cite, et je terminerai là, « Versailles, tu n'es plus qu'un spectre de cité. Comme Venise au fond de son Adriatique, tu traînes lentement ton corps paralytique, chancelant sous le poids de ton manteau sculpté. » Quel appauvrissement, quelle caducité. Tu n'es que surannée et tu n'es pas antique, et nulle herbe pieuse au long de ton portique ne grimpe pour voiler ta pâle nudité. Comme une délaissée, à l'écart, sous ton arbre, sur ton sein douloureux croisant tes bras de marbre, tu guettes le retour de ton royal amant. Le rival du soleil dort sous son monument, les eaux de tes jardins à jamais se sont tues, et tu n'auras bientôt qu'un peuple de statues.